de recherche informatique et de recherche en sécurité informatique. Donc c'est deux volets que je voudrais aborder et je voudrais montrer que, si vous voulez, on est dans une impasse conceptuelle. Alors, je voulais commencer par, disons, vous montrer un petit peu, vous illustrer ce que c'est que la recherche informatique aujourd'hui. Et il y a un think tank qui a 2 ans a proposé des projets informatiques pour l'Europe pour les années 2007-2013. Alors, disons très rapidement, je vous montre un petit peu ce que c'est qu'aujourd'hui la recherche en informatique. Alors, c'est la voiture sûre à 100%, c'est l'assistant multilingue pour l'Europe, tout ce qui est traitement des langues naturelles, c'est l'assistant robot à domicile pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, c'est vaste programme le réparateur informatique, la surveillance informatique, c'est tout ce qui est sécurité des réseaux, sécurité de l'Internet, c'est en médecine tout ce qui est modélisation et simulation de la cellule, des maladies, des médicaments, etc. C'est tout ce qui est amélioration, je dirais à côté du cerveau, de la mémoire, du patrimoine personnel. C'est tout ce qui est ordinateur que l'on portera sur ses vêtements, dans ses lunettes, ou je dirais bientôt même dans les implants biologiques, le visualisateur n'importe où, n'importe quand, etc. Le drone pour transporter une logistique légère, et le magasin intelligent avec des étiquettes RFID pour supprimer les caissières. Donc ça, c'est 11 projets informatiques qui avaient été proposés et qui donnent un petit peu une tonalité sur, je dirais, l'idéologie informatique aujourd'hui. Alors, je crois que aujourd'hui, on est dans une impasse conceptuelle et on est en butée pour gérer la complexité de la technologie d'une manière générale. Et si l'on veut bien comprendre ce qui se passe en informatique, ce qui se passe dans les technologies de manière générale, on est bien obligé de comprendre que depuis un certain temps, depuis une quinzaine d'années, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des concepts, mais on a exploité à fond, je dirais, l'informatique, les réseaux, etc. Et on arrive en butée, et dans quelques années, alors est-ce que c'est 2010, est-ce que c'est 2020, on va trouver une sorte de désordre généralisé, une sorte de chaos, et bien entendu, il y a les prémices, si vous voulez, un décèlement précoce de nouvelles technologies à venir. Alors, très rapidement, je vais remonter assez loin pour parler de l'informatique. Vous savez que Hilbert, en 1900, a fait une conférence d'anthologie pour présenter les mathématiques modernes, et il a présenté 23 problèmes, et ceci a eu une influence considérable sur toutes les mathématiques, y compris la théorie des ensembles, etc., et je dirais sur l'enseignement aujourd'hui. Et le 10e problème a été résolu par Turing en 1936, et pour résoudre ce problème mathématique, il a conçu un ordinateur, donc les machines de Turing. Et aujourd'hui, en 2007, on est toujours avec cette notion d'ordinateur, un ruban qui se déploie dans le temps, qui se déroule dans le temps, et si vous voulez, on n'arrive pas à dépasser ce concept d'Alan Turing qui date de 1936. Turing s'est suicidé en 1954. S'il ressuscitait aujourd'hui, il verrait que les ordinateurs qui sont là, celui-ci par exemple, eh bien c'est exactement celui qu'il a conçu en 1936. Donc vous voyez cette continuité incroyable qui existe en informatique. Alors, bien entendu, vous savez que les ordinateurs ont beaucoup changé depuis 1948. Ceci, c'est le premier transistor qui a été inventé en 1947. Et je pense que vous savez qu'il y a un mouvement profond de miniaturisation de l'informatique. En 1970, les transistors, il y avait 2300 transistors sur les ordinateurs. Aujourd'hui, il y en a 42 millions. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire le fait que c'est une droite, systématiquement, tous les 18 mois, on double le nombre de transistors que l'on met sur un millimètre carré. Alors, bien entendu, on arrive en butée, et vers, disons, 2015, 2012-2015, on atteindra, si vous voulez, les limites atomiques, et donc, ça sera la fin de la loi de Moore, c'est-à-dire que les ordinateurs, on va vivre bientôt la dernière génération des ordinateurs, et donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose, mais on ne pourra plus, si vous voulez, améliorer les ordinateurs dans les 10 ans qui viennent. Alors, bien entendu, si l'on regarde à plus grande échelle, avec un certain recul, depuis 1900, à travers les technologies, on s'aperçoit que finalement, la puissance, je dirais, des machines automatiques a finalement doublé aussi, disons, tous les 18 mois, tous les 2 ans. Et on se dit, ben, sans doute qu'on va inventer en 2012-2015 des multiprocesseurs ou je ne sais quoi. Bref, sans doute qu'on va pouvoir prolonger dans le 21e siècle cette loi de Moore. Eh bien, ceci est un problème fondamental qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Et je pense personnellement que sans doute cette loi-là va s'arrêter. Alors, bien plus dramatique que le matériel, c'est la rupture logicielle qui pose un problème. Alors vous savez que von Neumann a inventé les ordinateurs en 1948, enfin 46-49 en gros, et il avait donc, avec Turing d'ailleurs, conçu les ordinateurs, et finalement, là non plus, je dirais, l'architecture classique n'a pas changé. Et d'ailleurs, von Neumann avait écrit en 51 un petit article sur des virus, enfin sur des automates réplicables. C'est-à-dire que les virus informatiques, si vous voulez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au niveau des langages informatiques, eh bien, c'est en 1955 que Backus a inventé les langages informatiques. Et quand on regarde Java ou C++ aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas beaucoup changé. Simplement, le typage est un peu plus complexe, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et aujourd'hui, un être humain ne peut pas maîtriser plus de, disons, 10 000 lignes ou 50 000 lignes de code. Or, vous savez très bien que les logiciels aujourd'hui font en gros 1 million de lignes de code. Et donc, c'est le problème de la civilisation moderne aujourd'hui. On n'arrive pas à maîtriser le logiciel ont des bugs, on ne sait pas les faire, ça met un temps fou pour écrire un logiciel, pour concevoir un système informatique, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde, si vous voulez, la productivité logicielle, depuis 1945-47, on s'aperçoit qu'elle a été multipliée par 8 depuis 1950. Et, bien entendu, les logiciels, entre-temps, ont été une complexité multipliée par 10 000, et bien entendu, donc, c'est le problème de la civilisation, le problème de la technologie. On n'arrive pas à fabriquer des logiciels correctement, des logiciels fiables, etc. Hein, donc, le logiciel est en panne, le logiciel est en peine, et, bien entendu, on a tendance à mettre toute la complexité du monde aujourd'hui dans le logiciel, dans l'informatique, et c'est le problème, si vous voulez, des technologies modernes. Alors, pour information, vous savez que von Neumann, il a inventé le logiciel parce qu'il en avait assez, il était exaspéré, il faisait des calculateurs, et il était toujours en train de ressouder parce qu'il y avait des erreurs, etc. Il était en train de faire des patchs. Et un jour, il s'est dit, mais au lieu de mettre la complexité, l'intelligence dans mes circuits, je vais le mettre dans le contenu des circuits, et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il a inventé le logiciel. Et bien aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation, mais justement sur le logiciel. Aujourd'hui, on est toujours en train de patcher des logiciels, des operating systems, vous êtes connecté sur Internet pour mettre à jour votre operating system, vous mettez à jour votre base de données de virus, etc. Et donc ce logiciel, il est en flux tendu. Plus tendu, qui est extrêmement vulnérable, bien entendu, parce qu'on est donc toujours en train de changer la configuration de ces logiciels. Et donc, on ressent bien qu'il y a un problème crucial aujourd'hui dans le monde moderne, c'est que la complexité ne peut plus être injectée dans ce logiciel, dans le logiciel tout puissant, etc. Il faut sans doute réviser radicalement notre conception pour gérer cette complexité. Alors donc, on s'aperçoit que, si vous voulez, jusque dans les années 2010-2015, on gère cette complexité toujours de plus en plus inexplicable, et on arrive à un seuil, manifestement, il va y avoir une espèce de fenêtre de désordre, de chaos. Chaos, bien sûr, qui n'est pas forcément négatif, ça peut être simplement l'émergence, l'effervescence de nouvelles technologies, mais il est nécessaire dans ce désordre, dans cette désorganisation, je dirais, de la technologie de manière générale, d'avoir une attitude, un dialogue multidisciplinaire, c'est un petit peu le but de cette journée aujourd'hui, de voir comment on peut appréhender autrement que par cette informatique Uber à l'os, la gestion de la complexité. Et donc, vont apparaître des nouveaux ordinateurs, je vais en parler dans quelques sérieusement les ordinateurs quantiques, les nanotechnologies, etc. Et bien sûr, il y aura l'émergence de nouveaux risques. Ceci, je dirais, à l'horizon à peu près 2020. Alors, ça c'était en informatique. Et en sécurité, donc en sécurité informatique, il y a les mêmes problèmes. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que les gens qui font la sécurité informatique travaillent sur la sécurité des ordinateurs, la sécurité des téléphones portables, la sécurité des systèmes d'information, la sécurité des réseaux. Mais ce cadre étroit de la sécurité informatique traditionnelle est en train d'éclater parce que, à droite, vous avez la naissance, l'émergence d'infrastructures inextricables, Galileo, un super Internet, la 3G, etc. Et donc vous avez une interconnexion du haut débit, et ceci devient ingérable, et donc là non plus, il n'y a aucune ligne Maginot dans ces grands systèmes, on n'arrive plus à gérer cette complexité avec la cryptologie traditionnelle. Et puis je dirais, au niveau de l'ultra simple, du massif et du simple, vous avez toutes ces étiquettes RFID dans lesquelles on ne peut pas mettre de cryptologie, et donc on ne peut envisager la sécurité que de manière statistique. Et donc vous voyez que ce cadre traditionnel de la sécurité informatique est en train aussi de se briser. Et aujourd'hui, au niveau des fonctions de sécurité, eh bien sûr, il y a plus du contrôle d'accès, de l'intégrité de l'authentification, mais si vous voulez, les fonctions de sécurité ou les objectifs de sécurité les plus importants, c'est plutôt de la disponibilité, de l'imputabilité pour des très grands réseaux, et c'est plutôt des problèmes de traçabilité et d'identité pour ce qui est des objets ultra simples. Alors c'est ce qu'on appelle l'Internet des choses. Vous savez que l'Internet aujourd'hui c'est l'interconnexion d'ordinateurs, que le téléphone portable c'est l'interconnexion de personnes, mais donc ce qui arrive en ce moment, ce qui va arriver là, dans les 10 ans qui viennent, c'est le fait qu'on va étiqueter avec des ordinateurs ou des morceaux d'ordinateurs tous les objets. Et donc il y a 100 milliards d'objets donc à taguer si vous voulez, et ceci va être une vulnérabilité incroyable au niveau de l'informatique et des infrastructures parce que, bien entendu, on pourra falsifier relativement facilement cet Internet des choses. Je travaille personnellement sur la sécurité de ces choses-là, j'ai proposé des modèles, mais si vous voulez, la vulnérabilité existera toujours. Alors, au niveau de la mondialisation informatique, il y a la naissance de la polyinfrastructure, c'est-à-dire que de plus en plus, si vous voulez, vous n'allez pas travailler sur Internet, vous n'allez pas travailler sur votre téléphone portable, vous allez travailler un peu sur les deux. Vous allez utiliser Galileo pour vous positionner, vous allez prendre quelque chose sur le web, et vous allez en même temps téléphoner, etc. Et donc vous allez inventer des services virtuels qui vont être, si vous voulez, le cul entre deux chaises, à cheval, sur trois infrastructures. Et donc la sécurité, aujourd'hui, doit être construite, justement, sur ces entités virtuelles. Autre problème qui existe en sécurité, justement sur ces grands systèmes, vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous avez la RATP, ou l'EDF, ou France Télécom, qui a une politique de sécurité et une infrastructure, etc. Mais aujourd'hui, le monde informatique, on est dans un milieu informatique qui va à la vitesse de la lumière, et donc quand vous êtes dans ce milieu informatique, eh bien, vous êtes dépendant de vos voisins, et donc il est nécessaire d'envisager, je dirais, ces interdépendances, il est nécessaire de définir une sécurité en fonction de ses voisins. Et donc il y a cette révolution un petit peu copernicienne de l'informatique où on dit, eh bien je ne suis plus seul ici, je dois définir ma sécurité en fonction de l'environnement. Il y a un autre verrou informatique qui arrive en ce moment. Je pense que vous connaissez un petit peu Skype, vous connaissez, si vous avez des enfants, les téléchargements de logiciels BitTorrent, etc. Et donc, ce qui se passe en ce moment en informatique, c'est qu'au-dessus d'Internet, au-dessus du téléphone, etc., on est en train de construire des réseaux virtuels, et bien sûr, ces réseaux deviennent assez menaçants, parce qu'il va y avoir, si vous voulez, des bulles de puissance informatique anonymes qui pourront, bien sûr, vivre et bouger sur Internet ou sur les infrastructures de télécom. Ce qu'on appelle des structures de Borlet, des structures de superposition. Et bien entendu, ceci est une menace, à mon avis, très importante, parce que comme, d'une part, vous avez l'Internet des choses, c'est-à-dire la connexion de l'informatique directe avec la réalité, et vous avez une puissance informatique anonyme, eh bien, bientôt, il pourra y avoir, disons, une cybercriminalité pour tuer ou pour détruire ou pour déstabiliser de manière répartie, de manière anonyme. Ceci est un péril et il est très important de travailler sur comment, si vous voulez, sécuriser ces structures, se protéger des structures de recouvrement de calculs illicites. Alors tout à l'heure, on a parlé des identités de quelqu'un, une personne qui avait le même nom. Eh bien, au niveau de l'informatique aujourd'hui, il y a le problème des entités abstraites, d'entités virtuelles, que l'on ne peut pas nommer. Et vous savez très bien que bientôt, chaque entreprise, chaque personne va pouvoir construire son propre réseau, donc, sur les réseaux actuels. Et aujourd'hui, on ne peut pas identifier ces grandes structures abstraites. Et donc, il y a cette notion, cette dissolution de l'identité d'une manière générale. Et donc, il faut à tout prix travailler sur autre chose que l'identité. Alors, c'est donc la traçabilité, c'est... bref, ce sont des fonctions de sécurité un petit peu plus dérisoires, si vous voulez, que l'identité, l'authentité, l'authentification des choses, etc. Donc, aujourd'hui, en 2007, si vous voulez, au niveau de l'informatique, au niveau de la sécurité, on a des dichotomies qui sont à bout de souffle. Le matériel logiciel de von Neumann, eh bien, il est à bout de souffle, puisqu'on construit, si vous voulez, des entités virtuelles au-dessus d'entités logiques. Entre le monde biologique et le monde numérique, vous savez très bien qu'il y a des interfaces. Qu'est-ce que c'est que la sphère privée en informatique? C'est difficile à définir, etc., etc. On a donc ces dichotomies qui sont à bout de souffle, et donc on manque d'approche conceptuelle pour appréhender l'informatique et la sécurité de manière générale. Pour la Commission européenne, j'ai rédigé une feuille de route sur la sécurité informatique et, disons que grosso modo, j'ai vu deux phases. Jusqu'en 2010, on va travailler sur la sécurité de la convergence entre le téléphone, le téléviseur et puis l'ordinateur, donc avec tout un tas de problèmes. Mais vers 2010-2012, il y aura donc ce problème qu'il faudra s'interfacer avec les nanotechnologies, avec la biologie, avec les écosystèmes de manière générale. Et donc, il y a un chaos qui va arriver, bon, je ne sais pas si c'est en 2010 ou en 2012, mais pour s'interfacer avec le monde de l'invisible. Et bien sûr, il y a des menaces, disons, qui vont apparaître, qui vont émerger, des nouvelles menaces, parce que bien sûr, on pourra exploiter ou détourner, si vous voulez, ces nanotechnologies et ces interfaces. Alors donc, sécurité informatique, bien sûr, il faut travailler sur la souveraineté informatique et la privacy, la dignité numérique. Il faut essayer de contrôler davantage, de maîtriser ce monde informatique, mais vous voyez que, quand bien même on aurait réglé ce problème de gouvernance numérique, il va apparaître un nouveau problème, à savoir sécuriser les interfaces avec le monde invisible. Alors, on peut formaliser ça, je n'ai pas le temps de formaliser ça ici, mais disons très rapidement, vous savez que René Thom, qui est un Français, qui est mathématicien, qui est mort en 2001, dans les années 68, il avait écrit une théorie des catastrophes qui a eu un certain succès, qui tombait un petit peu en désuétude, mais disons que lorsqu'on invente une technologie, on a une fonction potentielle, hein, donc on est optimal, on est en bas, et sans qu'on s'en rende compte, et c'est là qu'il faut déceler de manière précoce cette inflexion, il apparaît des nouvelles idées, des approches conceptuelles, des nouvelles technologies, des inventions, des nouvelles approches. Et petit à petit, ça fait son chemin, et si vous voulez, la fonction potentielle ici, la nouvelle technologie là, qui émerge, finalement est équivalente et devrait remplacer immédiatement la technologie qui est en place. Et même au bout d'un certain temps, il y a un déséquilibre, à savoir que la nouvelle technologie qui n'est pas déployée est bien supérieure à la technologie qui existe, et si vous voulez, la catastrophe, le basculement se produit ici. Il y a la mort de la vieille technologie, l'apparition de la nouvelle, et puis, ensuite, tout revient à l'ordre, on a, de nouveau un potentiel relativement bas. Et donc, vous voyez, alors, il y a d'autres itinéraires pour les nouvelles technologies, mais ceci, est le plus simple à comprendre, et donc, vous voyez ici cette rupture, là, et surtout cette période de déstabilisation. Alors, ce que Xavier Rocher parlait très très bien tout à l'heure de cette chose-là, vous voyez, il faut déceler de manière précoce cette instabilité et savoir que bientôt ce monde-là va disparaître pour faire apparaître celui-ci. C'est ce schéma capital qui est important, je dirais, au niveau de la recherche en général. Alors, très rapidement, je crois que tout le XXe siècle, avec Einstein et Marie Curie, a travaillé sur le pas de la table de Mendeleïev, et vous savez très bien que le XXIe siècle va travailler sur le haut de la table de Mendeleïev, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène pour le vivant, le silicium pour les transistors, l'informatique, mais on va explorer davantage le gallium, le germanium, l'indium, etc., l'arsenic, et tout le XXIe siècle va être l'exploitation en toute liberté, l'effervescence de ces atomes. Et donc on appelle ça les MPIC, vous savez qu'il y a un rapport américain de la NSF là-dessus, mais et j'y crois profondément, sans être un fétichiste, si vous voulez, de la technologie, je pense qu'il faut redessiner les sciences modernes à l'intérieur de ce tétraèdre, à savoir, bien sûr, de l'informatique, mais il n'y a pas que l'informatique, il faut vivre aussi avec le monde de l'invisible, avec le monde du vivant, avec bien sûr les connaissances et l'intelligence du cerveau humain, et aujourd'hui, les recherches doivent s'inscrire non pas dans une gestion de la complexité toujours, je dirais, ratiocinante à l'intérieur des ordinateurs, mais il faut voir, il faut redécouvrir ces nouveaux territoires de l'échelle atomique. Bien entendu, il y aura des nouveaux risques, il y aura des détournements, et ce qui est important, c'est que l'informatique sache gérer correctement les nanotechnologies et donc l'interface entre l'informatique nouvelle et donc l'administration de ces objets invisibles est capitale. Et donc vous voyez que l'informatique de grand-papa, celle que l'on connaît, le matériel et le logiciel, est en train, sans qu'on s'en rende compte, d'être recouvert par donc, une nouvelle couche virtuelle dont personne ne parle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le concept de Fundeman, si vous voulez, est obsolète, il est caduque. On a vraiment construit et on est en train de fabriquer donc, ce modèle virtuel avec un monde anonyme, avec une puissance informatique, je dirais anonyme, qui bouge, qui est mobile sur le réseau. Et les ordinateurs quantiques vont arriver sans doute vers 2018, on n'en est pas sûr encore, mais vous savez très bien que lorsque l'ordinateur quantique va arriver, toute la cryptologie asymétrique, c'est-à-dire toutes les méthodes pour chiffrer Internet, vont être obsolètes. Ils vont être cassés puisque ces ordinateurs quantiques, pour ces calculs-là, iront à peu près 1 milliard de fois plus vite que les ordinateurs actuels. Et donc, si vous voulez, tous les codes, tous les secrets d'aujourd'hui seront cassés en une seconde. Bon. Alors, ceci va arriver au plus tôt, la période la plus optimiste, c'est 2018. Aujourd'hui, ce que l'on est capable de faire, c'est de la cryptologie quantique, tout simplement, c'est-à-dire la communication quantique, c'est-à-dire un ordinateur avec un seul quantum bit, et on arrive à faire ça sur 100 km. On arrive donc à transporter des secrets, si vous voulez. Chirac et Villepin pourraient se parler, si vous voulez, avec une fibre optique en quantique, de manière absolument sécurisée, si on voulait, c'est réalisable aujourd'hui. Ça marche. Et donc, le paysage qu'il faut voir au niveau de la sécurité, c'est le matériel et le logiciel, le virtuel et le quantique, et ce plan des nanotechnologies et ce plan des cellules de vivant, parce que c'est, si vous voulez, c'est la mise en scène future sur laquelle il faut travailler. Donc, pour commencer cette journée, je voulais dire, sans être en étant tout à fait humble, je pense que les menaces futures essentielles, c'est vers 2008, on aura un vrai cyberterrorisme potentiel. C'est-à-dire un logiciel qui détruit ou qui tue, hein, parce qu'on aura des bulles informatiques anonymes sur les réseaux, et comme l'informatique va toucher la réalité, va être connectée avec le vivant, on pourra donc détruire, falsifier. Vers 2015, il y aura ce détournement de l'utilisation des nanotechnologies, et il faut, au niveau de la recherche, travailler là-dessus. Il y a la rupture du quantique, et donc l'inversibilité, si vous voulez, de la cryptologie asymétrique qui va arriver vers 2020. Et donc il est très important au niveau de la technologie de travailler sur ces grands problèmes. C'est tellement vrai d'ailleurs que l'Europe s'en aperçoit. Vous savez que les budgets sur l'informatique stricto sensu est en train de baisser, alors que les budgets en recherche sur la biologie et sur les nanotechnologies est en train d'augmenter significativement. Et je voudrais finir sur cette remarque. Humboldt, c'est celui qui a créé l'université de Berlin en 1809, juste après la Révolution française, et c'est lui qui a, si vous voulez, fait ce qu'on appelle créer l'université moderne en découpant les disciplines en mathématiques, physique, chimie, la médecine, les sciences humaines, etc. Et je dirais depuis 200 ans, on fonctionne comme ça, et les instituts de recherche ici, le CNRS, l'INSERM, l'INERIA, l'INRA, etc., sont découpés de cette façon-là. Et on est en période électorale, on parle de développement de la recherche, etc., de l'enseignement. Je pense qu'on se trompe, et je pense qu'il faut radicalement réviser les institutions, le découpage des institutions, et refaire le travail de Humboldt, lorsqu'il a travaillé en 1809, et disons en 2007, il faudrait réviser les institutions et métamorphoser ces institutions pour vraiment les mettre, si vous voulez, en ordre de marche pour les vrais défis du XXIe siècle.